en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs. Droit international et droit interne sont longtemps demeurés étrangers l'un à l'autre. D'abord qualifié de droit des gens, le droit international liait les seules personnes de droit international, États et organisations internationales. Il ne pénétrait guère dans la sphère nationale, à l'intérieur duquel l'État exercer seul sa souveraineté. Montesquieu l'explique au début de l'Esprit des lois en distinguant le droit des gens, qui regarde toutes les sociétés et régit les rapports qu'elles ont entre elles, le droit politique, qui, à l'intérieur de chaque société, définit les rapports du souverain avec ses sujets, et le droit civil, qui s'applique aux rapports des citoyens entre eux. Ces différentes branches du droit sont séparées et largement hermétiques les unes aux autres. Soulignant les liens entre le droit et l'État, Montesquieu affirme qu'une société ne fait point de loi pour une autre société. Vous-même, Monsieur le Président, vous avez écrit, pendant longtemps, le droit international a seulement connu une société internationale composée d'États souverains. Dans ce contexte de séparation entre le droit international et le droit interne, pour le juge national, le droit international était sinon entièrement absent, en tout cas fort éloigné des dossiers à examiner au quotidien. Dans un ordre juridique construit autour de la souveraineté de l'État et de la primauté de la loi, il avait peu d'interférences avec les litiges portés devant le juge national et son autorité en droit interne demeurait même incertaine. Les sujets qu'il abordait relevaient en vérité d'un univers qui n'était pas celui du juge national. Avec la multiplication des traités, les deux mondes du droit international et du juge national ont commencé à se rapprocher. Aux classiques traités de paix ou de commerce se sont ajoutées des conventions portant sur des sujets de plus en plus variés. Les chiffres mêmes sont révélateurs. Le nombre de traités conclus par la France était en moyenne de 4 par an entre 1881 et 1918. Il est passé à 14 entre 1919 et 1939, 80 entre 1945 et 1959, 145 de 1960 à 1969, 175 à partir de 1980, pour se stabiliser aujourd'hui à environ 200 par an. Dans le même temps, le cadre constitutionnel s'est modifié pour conforter l'autorité des traités en droit interne. La construction européenne s'est construite par de multiples normes qui produisent des effets dans les domaines les plus nombreux. Des juridictions internationales se sont affirmées, avec en Europe une autorité particulière. Dans un univers mondialisé, le droit s'est affranchi des frontières et détaché de l'État. La globalisation économique, culturelle, technique, devant laquelle nous nous trouvons, s'est emparée et s'empare du droit, provoque en lui des phénomènes nouveaux de brassage, d'interconnexion, de transversalité, a écrit le professeur Jean-Bernard Aubi. Dans ce contexte, le juge français s'est trouvé de plus en plus fréquemment confronté au droit international. Il aurait pu en être déconcerté. S'exprimant comme organe de l'État, rendant la justice au nom du peuple français, ne risquait-il pas de perdre ses repères, voire son identité, dans un univers ouvert au droit international et par là nécessairement marqué par les cours internationales. La réalité s'est toutefois avérée différente. Loin d'être affaibli par la présence accrue de normes internationales, le juge français y a trouvé, comme les autres juges nationaux dans les différents États, un champ élargi d'intervention. Ses contacts plus étroits avec le droit international ont stimulé sa vivacité. Une riche jurisprudence s'est développée au travers de laquelle il a tout à la fois redéfini la hiérarchie des normes et enrichi son office. La redéfinition de la hiérarchie des normes est la première traduction des liens plus étroits entre le juge national et le droit international. Avant même que le juge précise leur portée, les textes constitutionnels successifs ont marqué la place croissante du droit international en droit interne. Conformément à la tradition qui séparait, selon une conception dite dualiste, droit international et droit interne, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 se bornait à prévoir que le président de la République négocie et ratifie les traités, et que certains de ceux-ci, les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'État et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ou aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. La Constitution était peu disserte sur le droit international. Le passage de ce système dualiste au monisme, dans lequel droit international et droit interne relèvent d'un seul et même ensemble, résulte, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Constitution du 27 octobre 1946. Son préambule affirme que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international, et ce préambule proclame, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, qui venait d'être adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, que la France consent, sous réserve de réciprocité, aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. L'article 26 de la Constitution inscrit de manière plus précise le droit français dans la conception moniste en indiquant que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi. La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi dans cette voie, en se référant au préambule de 1946, et elle s'y est même engagée plus avant, puisque son article 55 prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. On est passé de force de loi à autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, dit l'article 55, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ces dispositions constitutionnelles régissent l'insertion du droit international en droit interne. Ratification ou approbation, puis publication, suffisent, sans qu'il soit besoin, comme au Royaume-Uni ou en Italie, pays qui sont demeurés fidèles au dualisme, d'une loi pour introduire les traités dans l'ordre juridique interne. Il est toutefois des traités ou des stipulations de traités qui n'entendent créer d'obligations qu'entre les États et qui demeurent en conséquence dépourvus d'effet direct en droit interne. Il revient dans chaque cas au juge d'apprécier si un effet direct s'attache ou non à une clause d'un accord international, eu égard, nous dit un arrêt du Conseil d'État du 11 avril 2012, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes. Si l'article 55 de la Constitution affirme, vous le voyez clairement, la supériorité des traités sur les lois, il ne détermine pas les modalités de contrôle et de mise en œuvre de cette hiérarchie. De la sorte, il laisse une grande marge aux juges. Aussi est-ce la jurisprudence qui a progressivement assuré, d'un côté, la pleine supériorité des traités sur les lois, tout en consacrant, d'un autre côté, dans l'ordre juridique interne, la suprématie de la Constitution. Le juge a tout d'abord pleinement reconnu la supériorité des traités sur les lois. Nul doute que l'article 55 de la Constitution implique que la ratification et la publication d'un traité font obstacle à ce qu'une loi antérieure, incompatible avec le nouveau traité, cesse de s'appliquer. Une telle conséquence est d'autant plus logique que l'article 53 de la Constitution prévoit que les traités ou accords qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. La loi qui autorise ainsi la ratification ou l'approbation emporte l'abrogation des dispositions législatives antérieures, contraires au nouveau traité. Mais beaucoup plus délicate était la question d'une loi postérieure à un traité qui se trouverait en contradiction avec les stipulations de ce traité. Dans une telle hypothèse, celle de la loi nouvelle, plus récente que le traité, le juge, et dans l'affirmative, quel juge peut-il écarter l'application de la loi nouvelle ? Pour le Conseil constitutionnel, une telle mission n'entre pas dans son rôle de juge de la conformité des lois à la Constitution. Saisi pour la première fois par 60 députés de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse que le Parlement venait d'adopter juste après la révision constitutionnelle qui avait permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 15 janvier 1975, jugé que cette loi, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ne contredisait aucune norme de valeur constitutionnelle, mais il a refusé de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit international, en particulier du droit à la vie proclamé par la Convention européenne des droits de l'homme. Il explique qu'une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution. Sa jurisprudence est demeurée constante sur ce point. L'introduction, par la révision du 23 juillet 2008, de la question prioritaire de constitutionnalité, lui a donné l'occasion de réaffirmer la distinction entre le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires. L'abstention du Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois au traité était une invitation pour les juges ordinaires, juges judiciaires, juges administratifs, à intervenir pour donner une portée effective à la règle posée par l'article 55 de la Constitution. Dans une décision du 3 décembre 1986, le Conseil constitutionnel les incite de plus fort en indiquant qu'il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. Appliquant lui-même cette directive qu'il donne à tous, il vérifie, lorsqu'il intervient non pas comme juge constitutionnel, mais comme juge électoral, la compatibilité des lois, même plus récentes, aux traités internationaux. Dans ce cadre, la Cour de cassation, raisonnant en termes de conflit de normes, s'est engagé dans la voie d'un contrôle par le juge judiciaire de la conformité des lois au traité dès sa décision du 24 mai 1975, rendue quelques semaines après la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, arrêt bien connu de la Cour de cassation, administration des douanes contre Société des cafés Jacques Vabre. La question était plus délicate pour le juge administratif. Juge de l'exécutif, il n'était pas évident pour lui d'affranchir le gouvernement de sa première responsabilité, qui est bien d'assurer l'application des lois, premier devoir du pouvoir exécutif, en jugeant que certaines lois, parce qu'elles méconnaissent les traités, ne doivent pas être appliquées, et que le gouvernement est de la sorte non seulement affranchi de l'obligation de les appliquer, mais investi de l'obligation inverse, de laisser inappliquer les lois contraires aux traités internationaux. Mais la place croissante du droit international, en particulier dans l'espace européen, la cohérence juridique, les jurisprudences concordantes sur ce point de toutes les cours constitutionnelles et juridictions suprêmes européennes ont conduit le Conseil d'État à franchir le pas par sa décision Nicolau du 20 octobre 1989. La pleine supériorité des traités sur les lois est depuis lors reconnue et contrôlée par l'ensemble des juridictions judiciaires et administratives. Au-delà de la hiérarchie des normes, le rôle du juge par rapport à la loi s'est trouvé modifié en profondeur. Le juge, qui ne pouvait, selon la conception légicentriste héritée de la Révolution française, qu'appliquer la loi, s'est vu reconnaître la compétence de s'assurer de sa validité au regard du droit international et le pouvoir, en cas de contrariété avec le droit international, de paralyser l'application de la loi. Est ainsi apparu, selon un terme qui n'est peut-être pas du meilleur français, mais qui est très expressif, le contrôle dit de conventionnalité, qui a transformé en profondeur, au-delà de la hiérarchie des normes, les rapports du juge et de la loi. Seules des exigences d'ordre public peuvent, dans quelques cas exceptionnels, conduire à ce qu'un traité ne fasse pas obstacle à l'application de la loi qui lui serait contraire. Après l'adoption de la loi du 17 mai 2013 relative au mariage entre personnes de même sexe, la Cour de cassation a ainsi jugé qu'une convention franco-marocaine ne pouvait, sans méconnaître l'ordre public français, faire obstacle au mariage entre un Français et un Marocain. Si la pleine supériorité des traités sur les lois s'est ainsi trouvée reconnue, la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne a, de son côté, été affirmée. Supérieur aux lois, le droit international demeure en tout cas dans l'ordre juridique interne dans une position subordonnée vis-à-vis de la Constitution. À quelques années d'intervalle, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, à la charnière du XXe et du XXIe siècle, l'ont affirmé en des termes très voisins. Cette position est partagée par les différentes cours constitutionnelles et juridictions suprêmes européennes. La Cour suprême du Royaume-Uni fait prévaloir les principes constitutionnels britanniques sur le droit international et européen. Elle l'a affirmé très nettement dans une décision du 22 janvier 2014. Particulièrement nette est la jurisprudence de la Cour allemande de Karlsruhe, qui place au sommet de l'ordre juridique les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Elle vient de le rappeler en écartant la possibilité d'exécuter un mandat d'arrêt européen au nom de droits attachés à l'identité constitutionnelle de l'Allemagne par une décision du 15 décembre 2015. Deux sphères se distinguent. Celle du droit international, dans laquelle un État ne saurait se délier de ses engagements en se prévalant de sa propre constitution. Celle du droit interne, dont la constitution est la clé de voûte. Certes, l'évolution du droit international entraîne des modifications de la Constitution. La France a une très riche expérience dans ce domaine, puisque notre Constitution a été révisée pour pouvoir appliquer pleinement l'accord de Schengen, pour ratifier les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Lisbonne, pour adopter le mandat d'arrêt européen, pour adhérer à la Cour pénale internationale. Une révision avait été adoptée pour autoriser la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, mais le rejet de ce traité par le référendum du 29 mai 2005 a rendu cette révision sans objet. S'il intervient régulièrement pour autoriser ainsi les avancées du droit européen et du droit international, le pouvoir constituant demeure néanmoins le maître d'accepter ou non ces modifications de la Constitution. En témoigne de façon particulièrement nette l'impossibilité pour la France, en l'absence de révision constitutionnelle qui l'autoriserait, de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur les langues régionales et minoritaires. La contrariété de cette convention avec la Constitution a été relevée tant par le Conseil d'État que par le Conseil constitutionnel. L'obstacle ne pourrait être levé que par une révision constitutionnelle. Plusieurs fois proposée, une telle révision n'a, pour l'instant en tout cas, pas abouti et la France ne peut donc pas ratifier cette convention. Une nouvelle hiérarchie des normes, vous le voyez, a été définie. Cette hiérarchie à laquelle l'ensemble des juridictions françaises, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, ont apporté leur contribution est partagée par l'ensemble des pays européens. Elle consacre la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne, ainsi que la pleine supériorité des traités sur les lois. En même temps qu'il définissait cette hiérarchie et qu'il renouvelait ses rapports avec la loi, le juge a trouvé dans le droit international une source d'enrichissement de son office. Longtemps, en effet, le juge national a regardé le droit international dans les rares cas où il avait à en connaître, comme apportant des éléments de fait qu'il pouvait prendre en compte comme tels, mais sans les inclure dans son analyse juridique ni les intégrer à son contrôle. Une familiarité croissante avec le droit international a progressivement conduit à lui donner toute sa place dans les interventions du juge national, dont l'office s'est trouvé considérablement enrichi. Le juge national est devenu familier du droit international. Cette familiarité lui a également permis de prendre conscience des marges que lui ouvre la diversité du droit international. Le juge national familier du droit international. Cette familiarité a été vite acquise. Dès l'affirmation par la Constitution du 27 octobre 1946, nous l'avons vu, de l'introduction directe du droit international en droit interne, l'office du juge administratif a commencé à évoluer, le Conseil d'État incluant la référence au traité pour apprécier tant la légalité des actes administratifs que la responsabilité de la puissance publique. par une décision rendue quelques années après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, le 30 mai 1952, narrée Madame Kirkwood, le Conseil d'État juge pour la première fois que la méconnaissance d'un traité international peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif dont les requérants demandaient l'annulation. Il s'agissait en l'espèce d'un décret d'extradition. La voie ainsi ouverte est depuis fréquemment empruntée pour confronter une décision administrative au droit international, singulièrement au droit européen. Elle est d'autant plus courante que depuis l'arrêt Niccolo, la loi ne vient plus faire écran entre le traité et l'acte administratif contesté. Après le contentieux de la légalité, le contentieux de la responsabilité. Alignant les règles applicables au traité sur celles qu'il avait dégagées pour les lois, le Conseil d'État a ouvert, par une décision du 30 mars 1966, Compagnie Générale d'Énergie Radioélectrique, la voie à une responsabilité sans faute de l'État en cas de préjudice grave et anormal résultant de l'incorporation d'une convention internationale dans l'ordre juridique interne. Cette jurisprudence, inaugurée en 1966, n'est pas d'application fréquente. On ne voit depuis lors que quelques rares cas où la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée du fait d'un traité international. Mais elle joue néanmoins, et notamment aujourd'hui, dans quelques hypothèses peut-être trop fréquentes, où certaines ambassades étrangères à Paris adoptent des comportements peu recommandables. Ainsi, un salarié d'une ambassade qui se heurte pour obtenir le paiement de sommes qui lui sont dues et dont le juge prud'homal a constaté qu'elle lui était due, qui se heurte à un refus de son État et à l'immunité d'exécution dont bénéficient, en vertu du droit international, les représentations diplomatiques, peut se retourner vers l'État français en mettant en cause la responsabilité sans faute de l'État pour appliquer le droit international qui ne permet pas de poursuivre en France les représentations diplomatiques étrangères, même lorsqu'elles ne s'acquittent pas d'une obligation aussi évidente que le paiement de sommes dues à leurs salariés, notamment ceux qui exécutent des tâches très modestes de nettoyage des locaux de l'ambassade. Avec la reconnaissance de la pleine supériorité des traités sur les lois, le juge a été conduit à étendre son intervention sur les points qui déterminent l'introduction des conventions internationales dans l'ordre juridique interne. Longtemps qualifié d'acte de gouvernement, insusceptible de recours, dont le juge vérifiait seulement l'existence matérielle, mais sans pouvoir s'interroger sur leur régularité, la ratification ou l'approbation des traités sont désormais soumises aux juges chargés d'appliquer le traité qu'elles ont fait pénétrer dans l'ordre juridique interne. Il revient en particulier aux juges de s'assurer que, lorsqu'elle est nécessaire, l'autorisation du Parlement a bien été recueillie. Une irrégularité sur ce point peut même être invoquée par voie d'exception. Parce qu'il était regardé comme le seul interprète autorisé des traités conclus par la France, le ministre des Affaires étrangères était, en vertu d'une jurisprudence séculaire, saisi par le juge administratif comme par le juge judiciaire en cas de difficulté rencontrée pour comprendre le sens d'un accord international. Le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, ont mis fin à ces renvois préjudiciels au ministre en décidant qu'il appartenait au juge administratif comme au juge judiciaire d'interpréter eux-mêmes les traités internationaux comme ils interprètent toutes les normes qu'ils ont à appliquer. Une telle évolution s'imposait au demeurant pour satisfaire sur ce point aux exigences du procès équitable formulées par la Cour européenne des droits de l'homme. Seule la question de savoir si la condition de réciprocité était satisfaite a continué pendant un temps de faire l'objet d'un renvoi au ministre des Affaires étrangères. Mais cette solution, elle aussi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, a été abandonnée. Au vu des échanges contradictoires, et notamment des observations présentées par le ministre des Affaires étrangères, le juge détermine désormais lui-même si la condition de réciprocité est remplie. Encore la jurisprudence a-t-elle précisé que cette condition de réciprocité n'avait pas à jouer dans le cas des traités multilatéraux qui visent à garantir les droits fondamentaux. Dans sa décision du 22 janvier 1999 relative au traité qui institue la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel indique que le préambule de la Constitution conduit à écarter la condition de réciprocité dans le cas des traités conclus en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit international. Les caractéristiques propres du droit de l'Union européenne, comme de la Convention européenne des droits de l'homme, font également obstacle à ce que la condition de réciprocité puisse être invoquée dans leur cadre. La validité des traités eux-mêmes ne peut en revanche être discutée devant le juge ordinaire. Seul le Conseil constitutionnel a qualité pour vérifier la conformité d'un traité à la Constitution. Il ne peut le faire dans le cadre défini par l'article 54 de la Constitution qu'avant la ratification ou l'approbation. Et la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas ouvert de contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel sur ce point. Dans l'interprétation des traités, le juge national retrouve toutefois une marge dont il lui arrive de faire usage avec audace pour assurer la conformité du traité aux règles de valeur constitutionnelle. Par sa décision Koné du 3 juillet 1996, le Conseil d'État, après avoir qualifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République, donc de principe de valeur constitutionnelle, l'obligation de refuser une extradition demandée dans un but politique, interprète ainsi, non sans hardiesse et même presque en contrariété avec le texte même du traité, la Convention franco-malienne d'extradition, il l'interprète comme n'ayant pas entendu déroger à ce principe fondamental. Ainsi que l'écrivent les auteurs des grands arrêts de la jurisprudence administrative, la démarche consistant à interpréter une convention internationale à la lumière des principes constitutionnels repose sur l'idée qu'une convention internationale doit normalement se conformer à de tels principes. La place accrue du droit international conduit le juge, judiciaire comme administratif, à faire application non seulement du droit international public, mais aussi du droit international privé. Tel est le cas notamment pour les questions qui touchent aux droits des personnes ou aux droits des contrats. Pour apprécier la légalité d'un refus de visa opposé à une personne, visa d'entrée en France, opposé à une personne qui se prévaut de la qualité de conjoint de Français, le Conseil d'État s'interroge ainsi sur la portée d'un jugement étranger de divorce, pour savoir si cette personne est ou non divorcée d'un Français. Un contrat conclu à l'étranger et qui n'est en aucune façon régi par le droit français ne relève pas du juge administratif. Le tribunal des conflits a jugé que les intérêts du commerce international justifient l'adoption de clauses compromissoires. Mais il a précisé que le juge administratif avait compétence pour contrôler la conformité des sentences arbitrales rendues en application d'une telle clause compromissoire aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables au marché public, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de services publics. Sur ce dernier point, le débat n'est toutefois pas clos devant le juge national, puisque si le Conseil d'État applique la jurisprudence du tribunal des conflits, la Cour de cassation s'en est, pour sa part, écartée. Plus familier du droit international dans ses diverses branches, le juge national constate la diversité de ce droit et trouve des marges dans cette diversité. Le droit international, en effet, ne forme pas un bloc monolithique. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé du droit international comme s'il était un. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. La diversité même du droit international ouvre au juge national des marges pour combiner et articuler ces différentes composantes. D'une part, à côté des traités et conventions, le droit international comprend d'autres normes de référence. D'autre part, le droit européen se distingue et se distingue de plus en plus du droit international. Enfin, il n'est pas exclu que des contradictions puissent apparaître entre les stipulations de différents traités. Tout d'abord, diversité des normes du droit international. S'il est constitué principalement de traités négociés, signés, puis ratifiés ou approuvés par les États, le droit international connaît, comme le droit national, d'autres normes plus incertaines, plus souples, dont le juge national a aussi à connaître. Tel est le cas en particulier de principes non écrits, de déclarations adoptées par les États ou les organisations internationales sans prendre la forme de traités juridiquement contraignants, enfin de la coutume internationale. Au-delà des traités, le droit international comprend des principes non écrits qualifiées par la Cour internationale de justice de normes impératives de droit international général, ou en latin de jus cogens. Ce droit recouvre des règles comme l'interdiction de la torture, de l'esclavage, la prohibition de la discrimination raciale et du génocide, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de l'égalité des peuples. Son caractère indéterminé a conduit la France à ne pas ratifier la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui affirme le respect de ses principes généraux, même si la France, les gouvernements successifs ont déclaré appliquer les principes de la Convention de Vienne. Le Conseil constitutionnel s'est lui-même référé à ces principes non écrits, notamment au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et à plusieurs reprises, depuis sa décision du 9 avril 1992, au principe « pacta sunt servanda ». Sans avoir l'autorité contraignante des traités, des textes internationaux de caractère déclaratif sont revêtus d'une forte valeur symbolique. Tel est le cas au premier chef de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 lors de sa réunion à Paris, au Palais de Chaillot, et largement inspirée par le président Cassin. Entre dans cette catégorie l'acte final de la conférence d'Helsinki de 1975 et l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération signée à Paris le 21 novembre 1990. Avant d'être incorporé au traité de Lisbonne et de recevoir ainsi la même valeur juridique que le traité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était elle aussi un simple texte déclaratif. Même s'il ne s'applique pas directement, les principes ainsi proclamés ne peuvent être ignorés du juge national. La coutume internationale est plus présente encore. Longtemps réservée à son égard, le juge national en fait désormais application. Le Conseil d'État l'a affirmé dans une décision Aquaron du 6 juin 1997 qui concernait l'imposition en France de la pension de retraite servie à un ancien greffier de la Cour internationale de justice. De même, la décision Madame Salé du 14 octobre 2001 fonde l'immunité d'exécution des États sur les règles coutumières du droit public international. La jurisprudence précise toutefois que l'article 55 de la Constitution reconnaît que la supériorité que l'article 55 reconnaît au traité sur les lois ne s'étend pas à la coutume internationale. La coutume ne s'impose donc qu'en l'absence de loi contraire, mais une loi pourrait écarter la coutume internationale. Le droit européen, pour sa part, se distingue de plus en plus de l'ensemble des traités, pour se situer en vérité dans une sorte de lisière intermédiaire entre le droit interne et le droit international. Tel est d'abord le cas du droit de l'Union européenne. Touchant à de multiples sujets, il est d'autant plus présent qu'au traité, il ajoute un droit dérivé, règlements et directives, qui sont adoptés par les institutions de l'Union et qui s'imposent dans les États membres sans autre formalité que celle de leur publication au journal officiel de l'Union. Les juridictions de l'Union, notamment le Tribunal de l'Union et la Cour de justice de l'Union européenne, forment un véritable ordre de juridiction qui assure une interprétation uniforme du droit de l'Union, contrôle le droit dérivé et dialogue de manière régulière au travers de nombreuses questions préjudicielles avec toutes les juridictions nationales. Le droit de l'Union forme un véritable ordre juridique solidement charpenté. À partir de la révision du 25 juin 1992, préalable à la ratification du traité de Maastricht, l'Union européenne est entrée dans la Constitution française. Le titre 15 de la Constitution, intitulé de l'Union européenne, lui est consacré et son article 88.1 définit, je trouve très bien, la nature particulière de l'Union en indiquant que l'Union est constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ces dispositions pour reconnaître une obligation constitutionnelle de transposition des directives. Il juge que le constituant a consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. Le Conseil d'État emploie des mots presque identiques en reconnaissant l'existence d'un ordre juridique intégré de l'Union européenne et en précisant que le juge national est juge de droit commun de son application. Ainsi, le juge du référé liberté inclut dans son office le respect des libertés fondamentales que l'ordre juridique de l'Union attache au statut de citoyen de l'Union et il prend, le juge des référés liberté, les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qu'une autorité administrative aurait portée aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. La même reconnaissance de l'ordre juridique de l'Union se retrouve dans la jouissance du tribunal des conflits, qui a adapté le mécanisme interne des questions préjudicielles entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, en affirmant que chacun des ordres dispose d'une plénitude de juridiction pour appliquer le droit de l'Union, en saisissant si besoin la Cour de justice, mais sans jamais avoir à interroger l'autre ordre de juridiction lorsque le droit de l'Union européenne est en cause. Les principes ainsi dégagés par le tribunal des conflits ont été appliqués tant par le Conseil d'État que par la Cour de cassation. Aussi, les particularités du droit de l'Union sont-elles affirmées sur de nombreuses questions. Lorsque des dispositions législatives empiètent sur le domaine réglementaire et méconnaissent le droit de l'Union, le gouvernement est tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution pour les modifier ou les abroger par décret afin de mettre un terme à la violation de ce droit. Une loi de validation ne saura avoir pour effet ou pour objet de soustraire au contrôle du juge des actes administratifs contraires aux droits de l'Union. Juge de l'urgence, le juge des référés s'abstient en principe d'exercer un contrôle de conventionnalité des lois, mais il peut écarter une loi qui contreviendrait de manière manifeste aux droits de l'Union. Alors que la responsabilité de l'État, du fait des décisions de justice, ne peut être recherchée lorsqu'est en cause une décision définitive, il en va différemment dans le cas où un arrêt, même émanant d'une Cour suprême, aurait méconnu le droit de l'Union. Avec un moindre degré d'intégration, la Convention européenne des droits de l'homme, appliquée avec dynamisme par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, comme, dit-elle, un instrument constitutionnel de l'ordre juridique européen, imprègne de plus en plus le droit des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Les lois nationales sont confrontées aux exigences de la Convention. Le droit processuel s'adapte au principe du procès équitable. Les juridictions nationales se prononcent au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En cours de ratification, le protocole numéro 16 facilitera le dialogue entre cette Cour et les juridictions suprêmes nationales qui pourront la saisir de questions relatives à l'interprétation de la Convention. Les deux cours, de Strasbourg et de Luxembourg, entretiennent un dialogue que la perspective d'une adhésion de l'Union stimule encore. Avec les juges nationaux, elle contribue à la formation du droit européen. Outre la place spécifique du droit européen, le droit international peut enfin laisser apparaître des contradictions entre différents traités. Certes, les États sont supposés avoir un comportement rationnel qui leur évite en principe de souscrire à des engagements incohérents entre eux. Mais le développement même du droit international s'accompagne inévitablement de risques accrus de stipulations difficiles à concilier entre elles. Un traité bilatéral peut se trouver en délicatesse avec les exigences d'une convention multilatérale. Le droit des Nations Unies et celui de l'Union européenne ne sont pas nécessairement concordants. Les conventions conclues dans le cadre de l'Organisation internationale du travail reposent sur des principes qui diffèrent parfois de ceux du droit européen. Le droit dérivé de l'Union européenne soulève de temps à autre des questions au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour le juge, la situation est d'autant plus délicate que le droit international n'établit pas de hiérarchie entre les traités et ne donne pas de mode d'emploi pour résoudre les éventuels conflits entre eux. Le Conseil d'État s'est trouvé confronté à une telle interrogation dans une affaire où il était soutenu que l'accord entre la France et la Russie sur l'indemnisation des porteurs de titres d'emprunt russes avait introduit une discrimination prohibée par la Convention européenne des droits de l'homme en réservant les droits à réparation aux seuls Français. Éclairé par la riche contribution demandée comme amicus curiae au président Gilbert Guillaume, le Conseil d'État a indiqué qu'il appartient au juge national de chercher à concilier les traités, au besoin en les interprétant au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse certainement très exceptionnelle où un tel effort de conciliation demeurerait vain, il reviendrait au juge, conformément à la nature du droit international, d'appliquer le traité sur le terrain duquel l'État a entendu se placer quitte à engager, le cas échéant, sa responsabilité internationale. Le Conseil d'État précise toutefois que ces règles de conciliation ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne. Dans un univers où les échanges se multiplient, en même temps que les frontières s'estompent, le juge français rencontre, interprète, applique de plus en plus le droit international. De nouveaux horizons se sont ouverts pour lui, qui, loin de limiter ou d'aliéner son pouvoir régulateur, lui ont au contraire dessiné des frontières plus larges, source de créativité et d'autorité. La place du droit international a en particulier enclenché un mouvement de recomposition de la hiérarchie des normes qui a modifié les rapports du juge national avec la loi et dont le dernier développement a été, pour mieux asseoir la supériorité en droit interne de la Constitution, l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. Les questions rencontrées se renouvellent sans cesse. À côté du droit international, le droit comparé affirme sa nécessité et retrouve une vigueur qui s'était quelque peu estompée. Le droit lui-même se détache de la territorialité pour produire ses effets au-delà des États. Le droit de l'Internet, celui de l'environnement ou le droit du sport sont à cet égard particulièrement significatifs de normes qui dépassent les États-nations. Mais les échanges et la fiscalité, la régulation, certains aspects du droit civil, la prévention des risques majeurs, la répression des infractions les plus graves sont aussi concernés. Aussi, le juge doit-il, comme les autres institutions et comme tous les citoyens, réfléchir à son rôle dans un monde global. La manière dont le juge français s'est accoutumé à davantage rencontrer le droit international permet d'aborder ces interrogations de manière positive et avec de grands espoirs, y compris pour la force de notre droit et pour l'autorité des juridictions nationales. Le mouvement qui s'est engagé dans la seconde moitié du XXe siècle et qui se poursuit aujourd'hui montre que le juge français a saisi les opportunités que les vastes espaces ouverts par le droit international lui offrent pour mieux inscrire son action dans l'horizon universaliste qui répond à ses valeurs profondes et à ses traditions les plus fécondes.